Bénis ces instants, ô Dieu, et permets que, Seigneur mon roi, ta vie, ô Dieu, soit manifeste en ce lieu. Et que ce matin, quittons ce lieu, Père, nos vies soient totalement transformées par toi. Bénis ta parole que nous voulons déclamer ce matin et permets qu'elle trouve sa place dans nos cœurs et dans nos vies. Tout pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Dieu est bon. Amen. Et j'exprime ma reconnaissance à notre Père pour le choix porté à notre personne. Ce matin, j'aimerais nous inviter à faire la lecture dans la première lettre de l'apôtre Paul qu'il adresse aux Thessaloniciens, chapitre 4. Nous allons prendre les versets 1 jusqu'à 3 et nous lirons le deuxième texte dans Hébreux, chapitre 12, verset 14. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 1 à 3. Je lis pour nous tous. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que cela, ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quelques préceptes nous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Hébreux chapitre 12, verset 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Amen. Le dimanche, il y a quelques dimanches, on a été bénis par notre maman qui nous avait parlé sur la nature de Dieu. Et c'est là où j'ai pu aussi m'appuyer sur cette prédication-là pour nous proposer un thème ce matin, ce que Dieu veut. Et maman avait dit qu'elle avait présenté les quatre natures de Dieu, quatre aspects de la nature de Dieu. Dieu est amour, Dieu est saint, Dieu est travailleur, Dieu est fidèle. Et ce matin, nous allons aller dans le même sens parce que c'était une prédication qui nous avait personnellement touché. Et le thème que j'ai dit tantôt, c'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Bien aimé, connaître ce que Dieu veut est capital pour tout homme qui veut le voir dans sa vie. Connaître Dieu est capital pour tout homme qui veut le voir dans sa vie. La connaissance de ce que Dieu veut nous donne libre accès dans sa présence. L'homme veut beaucoup de choses de Dieu. L'homme veut la prospérité. L'homme veut la bonne santé. L'homme veut la richesse. L'homme veut l'élévation. L'homme s'attend à Dieu pour beaucoup de choses. Mais cependant, l'homme s'intéresse moins à ce que Dieu veut. L'homme s'intéresse moins à ce que Dieu attend de lui. Et c'est ainsi que l'apôtre nous rappelle cela ce matin. Il nous rappelle sur ce que Dieu veut. Dans la version seconde 21 que je lisais, il est dit du verset 23 de 1 Thessaloniciens 4, la partie A, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Qui dit progression, dit qu'il y a un point de départ et il y a une suite, il y a une marche. L'histoire nous rapporte que lorsque l'apôtre Paul écrit cette lettre, la vie d'autrefois des Thessaloniciens était difficile. Et dans cette ville, il y avait la corruption, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient, beaucoup de mauvaises choses. Et les gens d'alors se livraient publiquement à des convoitises et même s'en glorifiaient. Et ceux qui croyaient en Jésus-Christ, le jeune qui croyait en Jésus-Christ, était parfois persécuté. Et c'est ainsi que Paul, quand vous lisez ce passage à partir du chapitre 1, il est en train d'encourager cette église. Le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, Paul parle de cette église. Et même aussi, dans ces chapitres que nous avons lus, Paul fait l'éloge de cette église. Et un peu plus bas, au verset 3, c'est là où il dit, il leur rappelle ce que Dieu attendait. Ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu veut de chacun de nous. Il leur dit, ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Amen. Bien-aimé, cet appel de l'apôtre aux Thessaloniciens n'est ni la première ni la dernière. Lorsque vous lisez Lévitique chapitre 11, verset 45, Dieu disait à Moïse, « Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15, l'apôtre disait, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Mais plusieurs raisons nous encouragent à être saints. À être saints. Les Écritures de l'Ancien tout comme du Nouveau Testament appellent l'homme à se sanctifier. Et cela pour bien des raisons. Parmi lesquelles, quand vous lisez les deux passages que j'ai lus de base, c'est que Dieu lui-même se présente comme étant saint. C'est ce que maman aussi avait dit la fois passée. La nature de Dieu, la sainteté est la nature de Dieu. Il nous appelle à être saints parce que lui-même, il est saint. Et dans bien de passages, Dieu parle de sa sainteté. Et même aussi, il est dit combien les anges aussi louent Dieu parce qu'il est saint. Dieu est saint. Il est l'auteur de toute existence. En lui, il n'y a point de ténèbres. En lui, il n'y a point de mal. Tout est parfait. Il y a la perfection dans sa nature. Dieu ne connaît pas le bien, mais il est le bien. Il est saint. Notre Dieu que nous servons, il est saint. En lui, je disais tantôt, il n'y a point de ténèbres. Lorsque vous lisez 1 Jean chapitre 1, verset 5, il est dit ceci. 1 Jean 1, 5, il est dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Le Dieu que tu viens chercher tous les jours, le Dieu que tu cries tous les jours, le Dieu que tu implores tous les jours, c'est un Dieu de par sa nature qui est saint. Il n'est pas un Dieu comme tous les autres dieux. Il est un Dieu saint. Et je disais tantôt qu'il y a cette appellation de Dieu saint. Il est aussi appelé Dieu de lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, ce Dieu est saint. L'homme aussi sait que Dieu est saint. Même ceux qui ne croient pas en lui, mais ils savent qu'il y a un être qui existe, qui est parfait. Et cet être-là, des fois, les gens ne savent pas qui il est. Mais cet être est venu sur la terre, il est venu manifester la vie de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Jésus est Dieu. Et Jésus est saint. Et lors de sa conception, on parle comment cette conception était l'œuvre du Saint-Esprit. Et même lors de sa naissance, l'ange pouvait dire à Marie, dans Luc chapitre 1, verset 35, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Jésus qui est Dieu est saint. Lors de sa naissance, nous le voyons, même dans sa vie, il a vécu tout en gardant cette nature de sainteté. C'est le témoignage qui est rendu de lui. Quand vous lisez Hébreux chapitre 4, verset 15, il est dit, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. » Il a été tenté comme nous, mais il a gardé sa nature sainte. Jésus est saint. Et ce témoignage aussi vient de Pilate, lors de son jugement. Dans Jean chapitre 19, verset 4, Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, parlons évidemment de Jésus, afin que vous sachiez que je n'ai trouvé en lui aucun crime. » Aucun crime. Jésus qui est l'image de Dieu, l'image visible de Dieu, il est saint. Il était saint. Et c'est ça sa nature. Il a gardé cette nature, même en revêtant le corps de chair, l'humanité. Il a gardé sa nature de sainteté. Et il nous sert de modèle. Il nous sert d'exemple. Voilà pourquoi Paul dit dans les Corinthiens, « Soyez mes imitateurs comme moi, je le suis, de Christ. » Parce que Dieu est saint, nous devons aussi nous sanctifier. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 5, il est dit, « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché, et il n'y a point en lui de péché. » Le Dieu que nous cherchons, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu saint. Alléluia. Il est parfait. Bien-aimés, la connaissance de ces choses nous aide à conformer notre vie par rapport à sa vie. Connaître ce que Dieu est et nous est bénéfique, je l'ai dit au départ, parce que ça nous permet d'adapter notre vie ou de nous conformer à ce Dieu-là. De vivre selon ce que lui, il veut. De dépendre totalement de lui. Celui qui ne sait pas que Dieu est saint, il pourra voir sa vie être différente de Dieu. Et nous avons dit que la première des choses, Dieu veut que nous soyons saints parce que lui-même est saint. Et la deuxième des choses ce matin, la deuxième raison, c'est que Dieu nous demande d'être saints parce que il veut que l'homme lui ressemble. Maman aussi en avait largement parlé ces jours-là. Dieu veut que nous puissions lui ressembler. Il dit, vous serez saints, soyez saints, car moi je suis saint. Quoi pour dire, vous voulez me ressembler, soyez saints. Dieu nous appelle à les ressembler. Dieu veut que nous soyons comme lui. Voilà pourquoi on parle de Dieu, la lumière. Plus tard, on dit aussi que nous sommes des enfants de lumière. Nous devons marcher comme des enfants de lumière. Pourquoi? C'est aussi une manière de ressembler à Dieu. Depuis l'Ancien Testament, Dieu appelle son peuple à être saint pour lui. Il voudrait que son peuple le ressemble. Il voudrait que son peuple soit comme lui. Bien aimé, quoi pour dire qu'il est possible d'avoir la nature de Dieu, d'avoir le caractère de Dieu. Il est possible. Aujourd'hui, il y a un débat où des gens disent, est-ce qu'il est possible d'être saint? Certains rejettent cela, mais la Bible démontre qu'il est possible d'être saint. La Bible l'éprouve bien. Bien-aimé, ressembler à Dieu dans sa sainteté confirme notre identité d'enfant de Dieu. Ce qui fait de nous enfants de Dieu, c'est parce que nous ressemblons à Dieu. Ce qui fait de nous enfants de Dieu, ce n'est pas parce que seulement nous venons remplir l'église, mais c'est parce que nous ressemblons à Dieu. Voilà pourquoi même les premiers disciples, les apôtres, étaient appelés des chrétiens parce qu'ils étaient comme Christ. C'est ce qui fait de nous enfants de Dieu. Ressembler à Dieu nous donne une identité. On n'a pas l'identité des chrétiens parce que seulement on prie. On n'a pas l'identité des chrétiens parce que seulement on lève le main. Non, on a l'identité des chrétiens parce que nous ressemblons à Dieu dans toute notre conduite. Cette ressemblance aussi, bien aimé, nous confère l'autorité de Dieu. Celui qui ressemble à Dieu a le pouvoir que Dieu lui confère. Adam, dans le jardin d'Éden, avait cette autorité. Il avait peur à cause du péché. Mais avant, il avait cette autorité. Et lorsque nous ressemblons à Dieu, nous avons ce pouvoir. Voilà pourquoi Jésus disait à ses disciples, je vous donne le pouvoir. Celui qui ressemble à Dieu a le pouvoir, l'autorité de Dieu. Et il agira selon Dieu, pour Dieu. Souvent, il y a des gens qui s'engagent dans des combats spirituels, mais sans pourtant avoir cette nature de Dieu. Voilà pourquoi nous devons avoir cette nature de Dieu. Aujourd'hui, des gens aiment les prières de combat, mais leur vie, et pourtant, ils ne sont même pas enfants de Dieu. Oui, nous voulons être forts, c'est revêtir la nature de Dieu. C'est revêtir la nature de Dieu qui est la sainteté. Cette ressemblance, je disais encore, nous sert de soubassement pour toute action que nous pouvons faire pour Dieu. Lorsqu'on est saint, c'est comme un soubassement pour lequel nous nous appuyons pour tout ce que nous pouvons faire pour Dieu. Il est vrai que Dieu veut aussi qu'on l'adore. Il est vrai que Dieu veut aussi qu'on prie. Il est vrai aussi que Dieu voudrait qu'on puisse le servir. Il est vrai que Dieu voudrait aussi qu'on puisse donner des offrandes. Mais tout ce que nous pouvons faire a comme soubassement la sainteté de Dieu. Lorsque nous ne sanctifions pas, tout le reste pourra voler en éclats. La sanctification rend la prière efficace. C'est vrai, Dieu veut qu'on prie, mais pour que nous puissions prier véritablement et vivre l'exaucement à nos prières, c'est la vie de sainteté qui pourra le rendre. Voilà pourquoi Jacques disait que la prière du juste a une grande efficacité. L'efficacité vient de la prière, vient de la qualité de l'homme, de la nature que l'homme rêvait en lui. La sanctification rend notre prière efficace et même aussi notre adoration. Nous voulons que notre adoration soit approuvée de Dieu. Oui, tout part de la vie que nous menons. On peut bien chanter pour Dieu, on peut bien louer Dieu, mais si notre vie est en porte-à-faux avec ce que nous faisons, si notre vie ne ressemble pas à Dieu, Dieu n'agréera pas notre adoration. Il n'agréera pas notre louange. Je me souviens de ce passage d'Amos qui dit, Amos chapitre 5, verset 23, où il a dit que Dieu n'écoute même pas la prière de ces gens. Dieu ne reçoit même pas l'adoration. C'est vrai, nous aimons adorer, nous aimons danser. Mais le soubassement de ce que nous faisons vient de notre vie, vient de la sanctification. Et c'est comme ça que notre adoration aura un sens. C'est comme ça que notre adoration trouvera de la valeur. Parce que la vie que nous menons ressemble à celui à la personne que nous adorons. Et de la même manière aussi que la qualité du service que nous pouvons rendre pour Dieu provient aussi de l'état de notre cœur. Oui, c'est vrai, nous sommes appelés à servir Dieu. C'est vrai, nous sommes appelés à aller loin pour Dieu, parler de Dieu. Mais cela s'appuie sur la sanctification. Je pense qu'il y a quelques dimanches en arrière, je me souviens d'un frère, d'un aîné, qu'on appelait M16 à l'ISC là où j'ai étudié. On l'appelait M16, mais c'est bien, il mettait un diacre. Et quand je suis allé le chercher chez lui à la maison une fois, je disais M16, mais personne ne savait ce qu'était M16. M16, c'est l'arme américaine. Et M16, parce qu'il était un vrai coureur de jupons à l'ISC. Il était celui qui nous aidait, qui aidait les étudiants à brancher, ça veut dire à corrompre. Il était appelé là-bas M16, mais à l'église, il était diacre. Et quand je suis allé chez lui, là où il habitait, parce qu'on devait se voir, j'ai dit que je cherchais M16, mais personne ne connaissait M16. Et quand j'explique, on dit, ah, c'est le diacre, ah oui. Donc M16 était le diacre. Quand on dit M16 rendait service à Dieu, mais sa vie était en porte-à-faux. Quoi pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai, nous sommes appelés à servir Dieu. C'est vrai, nous sommes appelés à nous engager dans l'œuvre du Seigneur. Mais le plus important aussi, c'est que Dieu veut que nous soyons saints. C'est le soubassement, c'est la base qui peut et qui aide à ce qu'il y ait l'élévation du mur. C'est la base qui permet à ce que les autres choses suivent. C'est la base qui permet à ce que ta prière soit exaucée. C'est la base qui permet à ce que ton offrande soit agréée par Dieu. C'était ça le cas de nos frères Abel et Caïn. L'offrande d'Abel était agréée, tandis que celui de Caïn ne l'était pas. Et Dieu dit à Caïn, mais si tu agis bien, tu relèveras la tête, les péchés couchent à la porte de ton cœur, domine des péchés. Quoi pour dire, il y avait seulement question de reformuler les choses, afin que l'offrande soit agréée par Dieu. Amen. Nous sommes appelés, bien-aimés dans le Seigneur, à mener une vie de sainteté. Ah oui, c'est vrai, c'est un thème difficile. Parce que c'est comme un combat qu'on livre entre soi-même. La sanctification, nous allons en guerre contre nous-mêmes. Nous allons en guerre contre nos désirs, nous allons en guerre contre notre propre volonté. Voilà pourquoi l'apôtre pouvait dire quelque part que ce que je veux, ce que je veux faire, ce n'est pas ce que je fais. Ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je suis en train de faire. Qui pourra me délivrer? Qui pourra nous aider? Des fois, nous avons des désirs. Dans une fête, on veut vraiment danser. On veut vraiment laisser éclater sa joie. Mais il y a une forme de restriction par rapport à Dieu parce que nous sommes appelés à plaire à Dieu. Parce que la sanctification, c'est seulement mise à part pour Dieu. C'est seulement plaire à Dieu. C'est ce que l'apôtre même a donné comme définition. C'est seulement plaire à Dieu. Et des fois, il y a comme une lutte au-dedans de nous. Et certains se laissent entraîner par le désir. Mais d'autres se battent. Je me dis à quelqu'un, ce message n'est pas une condamnation pour nous, mais c'est pour nous pousser à être comme David. David, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait mal agi, et qu'à un moment donné de sa vie, dans sa marche de tous les jours, il l'avait branché. Et lorsqu'on lui a rappelé cela, qu'est-ce que David a fait? Il a reconnu que j'ai péché contre Dieu. Oui, mais il n'est pas question pour nous de toujours nous justifier. Nous aimons bien nous justifier. Nous aimons bien trouver des excuses. Dans nos faiblesses que nous avons tant, dans ce que nous faisons tant. Mais pourtant, Dieu nous appelle seulement à revenir vers lui. S'il nous donne la vie, c'est parce qu'il veut que nous puissions revenir vers lui. Nous avons peut-être des faiblesses sur l'argent, nous avons des faiblesses par rapport aux femmes, nous avons peut-être des faiblesses par rapport à tout ce que nous pouvons dire, nous avons des faiblesses. Il n'est pas dit que non, voilà, puisque j'ai des faiblesses par rapport aux femmes, je dois m'appuyer sur la vie de Salomon ou d'autre chose. Mais je dois plutôt reconnaître que là, j'ai une faiblesse et j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Et cet appel, ça nous permet seulement de revenir à Dieu. J'ai peut-être des faiblesses liées à l'argent. J'ai peut-être seulement dit à Dieu, Seigneur, aide-moi. De moi-même, je ne peux rien. Et c'est ce qui était la vie de David par rapport à Saül. Saül, lui, voulait s'enorgueillir. Lui voulait rester, garder sa notoriété. Mais David, lui, plutôt a dit à Dieu, Seigneur, aide-moi. Et c'est comme ça qu'il a été pardonné. Bien aimé, en lisant ce passage que nous venons de lire, de 1 Thessaloniciens, 4 et même aussi des Hébreux que je nous ai donné, nous avons vu les raisons pour lesquelles Dieu voudrait que nous soyons saints. Parmi lesquelles, nous avons dit que Dieu lui-même est saint. Deuxièmement, nous avons vu que Dieu voudrait qu'on le ressemble. Dieu veut que tu le ressembles. Quand on te voit, qu'on voit Dieu. Quand tu es quelque part, on sent que Dieu, la présence de Dieu est là. Tu manifestes la présence de Dieu, même au travail, même au bureau. Dieu veut que tu le ressembles. Dieu veut que tu le ressembles. Il y a une autre raison, c'est qu'il y a des bénéfices attachés à la vie de sanctification. Il y a des bénéfices. L'homme ne perd pas lorsqu'il s'engage dans la vie de sanctification. Lorsqu'il fait ce que Dieu veut. L'homme ne perd pas, au contraire, l'homme gagne. Parce que la sanctification, en fait, rend l'homme fort. Donne la force à l'homme, la force mentale. La force que nous avons premièrement n'est pas la force physique, mais c'est la force intérieure. Cette force intérieure se manifeste par l'assurance que nous avons. Raison pour laquelle les apôtres de Jésus, ou plutôt les disciples de Jésus, lorsqu'ils parlaient, ils avaient cette assurance. Pourquoi ils avaient cette assurance? Parce qu'on ne pouvait rien, on ne reprochait de rien. Et ça leur donnait la force intérieure de continuer. À un moment donné, on a interdit aux disciples de prêcher le nom de Jésus. Ils ont dit, voyez vous-même, soit vous obéir ou obéir à Dieu. Car nous ne pouvons pas nous taire. Parce qu'ils avaient cette force intérieure. La sanctification donne la force intérieure. Vous savez, quand vous n'avez rien fait et qu'on vous accuse, vous parlez la tête haute et vous parlez avec exactitude. Mais des fois, lorsque nous savons que nous avons bronché, nous sommes affaiblis. Nous marchons tête baissée. Nous balbutions. Nous trouvons le mot. Parce que le manque de sanctification nous affaiblit. Le manque de sanctification nous diminue notre respect. Diminue notre force. On n'a pas de force devant celui en qui on sait qu'il connaît la vérité. Quand on le voit, on baisse le bras. Souvenez-vous de ce que le pasteur dit toujours, des histoires du poulet. Souviens-toi de chicken. Parce que l'autre, là, avait des éléments. Et quand il avait des éléments, l'autre pouvait que baisser la tête parce que ce n'était pas bon. Bien-aimé, le retombé de la sanctification, premièrement, c'est que nous pouvons nous approcher de Dieu sans crainte. Celui qui se sanctifie s'approche de Dieu. Il ne tremble pas. Il aime au contraire la présence de Dieu. Un des signes qui prouve que quelqu'un se sanctifie, c'est la présence de Dieu. Et cette présence se fait dans nos maisons. Lorsque nous pensons, nous prenons le temps à prier. Cette présence se fait lorsque nous assistons aux réunions de l'Église. Cette présence se manifeste plutôt lorsque nous servons aussi Dieu. On s'approche de Dieu. On n'a pas peur de Dieu. Un monsieur qui n'a pas un problème avec la société n'a pas peur de la police. Au contraire, il est en sécurité lorsqu'il voit la police. Mais celui qui est brigand a peur de la police. Je me souviens une fois, on allait avec les enfants en excursion vers Kinkole. Et ce jour-là, je suivais les enfants vite, mais j'avais oublié le permis. Et lorsque je voyais seulement les gilets jaunes, noirs, rouges, mon cœur battait. Et je faisais des stratégies, soit pour retarder, ou soit accélérer. Parce que je n'étais pas en ordre, j'avais oublié les documents. Je me disais, si on me contrôlait, qu'est-ce que je veux présenter? Et puis, il me dit que tu n'as pas de permis, c'est une faute lourde. Et pour laquelle, en tout cas, tu vas faire sortir de l'argent. En tout cas, je me dis, tous les trajets, j'avais peur. Ils imaginaient quitter du bon marché jusqu'à Kinkole. En tout cas, j'ai regardé les carrefours à gauche et à droite. Et même à l'aller tout comme au retour, j'ai pensé même rentrer la nuit. Enfin, je me dis, la nuit, il ne serait pas allé, il serait déjà parti. Mais on avait fini notre visite avant, il fallait retourner quand même. Mais alors là, il fallait beaucoup de stratégies, je vous dis. Celui qui se sanctifie s'approche facilement de Dieu. Il s'approche pour adorer Dieu. Il s'approche, on ne va pas les forcer. C'est comme la semaine prochaine, on aura prié. On ne va pas vous forcer. On ne va pas vous forcer parce que celui qui se sanctifie trouve son plaisir en s'approchant de Dieu. Voilà pourquoi David pouvait dire que demeurer dans ta présence vaut mieux mille ailleurs. Un jour dans tes parvis. Pourquoi? Parce que sa vie était conforme à la vie de Dieu. Mais lorsque nous ne sommes pas, notre vie n'est pas conforme, souvent nous fuyons. Je me souviens des fois quand on faisait des mauvais points à l'école et que tu as commis une faute, on dit qu'on va dire à papa. En tout cas, tu ne vas pas rentrer, tu es mal à l'aise. Et quand tu vois papa, tu croises les doigts. Et quand on commet une faute, on n'a pas envie de le voir. Mais il suffit seulement qu'on t'appelle. Le cœur bat sans l'air. Parce que tu dis, et quand tu es en sa présence, tu te dis, Seigneur, et là, les doigts, tu le crois dans la poche. Et quand tu sors de sa présence, même ici aussi, quand ça nous arrive de commettre les fautes et quand papa t'appelle, tu te dis, waouh, tu crois des doigts. Quand tu sors, tu dis, enfin. La deuxième des choses dans Hébreu que nous avons lu nous dit que rechercher la sanctification, la paix avec tous les hommes et la sanctification. Pourquoi? Sans laquelle personne ne verra Dieu. Ce passage est eschatologique, mais aussi présente. Ça annonce des choses à venir, mais aussi des choses présentes. Nous allons voir Dieu là-haut, tel qu'il est. Nous allons le voir dans le jour qui vient. C'est ça même la promesse. C'est ce qui fait la force chrétienne. C'est ce qui fait la vie chrétienne. La chrétienté, nous la vivons parce que nous avons cette espérance de voir Dieu. Tel qu'il est, tel que nous le verrons. C'est ce qui justifie notre présence à l'église. C'est ce qui fait que nous nous gardons pour Dieu. Pourquoi nous nous gardons? Pourquoi nous ne faisons pas comme tout le monde? C'est pas seulement pour avoir de l'argent. C'est pas seulement pour avoir l'élévation. C'est parce que nous avons cette promesse que nous le verrons ce jour-là. Et celui qui vit dans la crainte de Dieu a cette espérance. Voilà pourquoi l'apôtre disait toujours dans Thessaloniciens que nous ne dévancerons pas ceux qui nous sont morts, mais qu'en un signal donné au son de la dernière trompette, premièrement les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants, nous serons changés pour rejoindre la famille là au ciel. Et nous les verrons tel qu'il est. C'est comme ça qu'on parle plus tard de la sanctification totale qui se fera là au ciel. La sanctification parfaite, c'est là au ciel. Nous le verrons. Mais laisse-moi nous dire que celui qui marche dans la sanctification verra Dieu dans sa vie de tous les jours. Ah oui, il est possible que tu vois Dieu dans ton travail. Il est possible que tu vois Dieu dans tes projets. Il est possible que tu vois Dieu, tu expérimentes Dieu dans ta vie de tous les jours. Tu es malade et Dieu te donne la guérison. C'est possible de voir Dieu. Les gens de la Bible l'ont vu. L'apôtre Paul, lorsqu'il voyageait pour se rendre à Rome pendant que le bateau faisait naufrage, il a dit que l'apôtre Paul dit, un nom du Seigneur en qui j'appartiens et que je sers m'est apparu. Ah oui, voir Dieu, c'est vivre l'intervention divine dans la vie de tous les jours. C'est une manière de voir Dieu. C'est lorsque Dieu intervient dans nos quotidiens, lorsque nous-mêmes nous nous sentons limités, lorsque nous-mêmes nous sentons qu'on ne peut plus, mais là on voit la main de Dieu. La main de Dieu. Nous pouvons voir Dieu. Troisième chose, la retombée de la sanctification, c'est que nous vivrons dans la victoire. La victoire est certaine pour tout celui qui vit la sanctification. Peu importe les temps, peu importe les moments, le pasteur nous a dit la fois passée que Dieu utilise les circonstances. Et peu importe les circonstances que vous êtes en train de traverser, mais ce qui est sûr, la victoire est certaine. La victoire est de ton côté, peu importe le combat. Peu importe le combat, la victoire est de notre. Nous marchons dans la victoire. Nous vivons dans la victoire. La victoire est notre compagnon de tous les jours. La victoire nous accompagne. Ah oui, peut-être tu es en train de passer des moments difficiles au niveau du service. Peut-être tu passes des moments difficiles dans ta santé. Il y a la maladie, mais la victoire sur la maladie est bien réelle. Ah oui, et ça s'appelle la guérison. Dieu nous accorde la victoire. C'était le cas avec Daniel, vous vous souvenez. Que Daniel 1 nous dit que Daniel s'est résolu pour ne pas s'essuyer avec les mains du roi. Et c'est ainsi que Daniel était combattu par les autres. Mais à la fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le Dieu de Daniel qui était élevé. Et Daniel a gardé son poste et il a encore été élevé parce qu'il s'était résolu de ne pas s'essuyer par les mains du roi. Quoi pour dire, bien-aimé, la marche dans la sanctification nous donne la victoire. La victoire sur la mort. C'est comme ça que j'ai parlé de l'eschatologie, de ce qui est à venir. Les chrétiens n'ont pas peur de la mort à cause de la victoire acquise à la croix de Golgotha. Et la sanctification nous donne cette victoire qu'un jour nous serons ressuscités. La victoire sur le péché. Il y a des choses qui nous lient, qui nous rendent faibles. Mais lorsque nous nous sanctifions, nous nous battons, nous avons cette victoire. Cette victoire fait notre fierté. Cette victoire fait notre force, je l'avais dit. Nous avons la victoire aussi sur l'ennemi, sur le diable. Pour aller combattre l'ennemi, oui, il faut être saint. Dans Éphésiens, l'apôtre disait que vous n'avez pas à lutter contre la chair et les dominations, mais vous avez à lutter contre les autorités. Et la victoire sur les forces des ténèbres provient d'abord lorsque nous nous sanctifions. Quand on est saint, on est déjà victorieux. On part dans cette lutte avec cette assurance de la victoire. Que nous aurons la victoire. L'ennemi nous combat tous les jours. L'ennemi rôde autour de nous. Il multiplie des stratégies pour nous faire du mal. Il veut bloquer, détruire nos familles. Mais d'où est-ce que nous avons la victoire? C'est par la vie de sanctification que nous avons la victoire. Bienvenue dans le Seigneur. Connaître ce que Dieu veut est capital pour nous. Ça nous permet de le ressembler, de connaître sa nature d'abord. Sa nature nous donne des bases solides pour vivre selon lui. Et en vivant selon lui, nous allons le ressembler. Et il y a des bénéfices qui sont attachés à cette vie, parmi lesquels nous avons la victoire, nous avons la réussite. Nous allons courber nos têtes et dire un mot à Dieu.
Dieu est bon, il est merveilleux. Le Seigneur a parlé à nos cœurs ce matin. Nous avons besoin de ressembler à notre Père. Et non être comme des caméléons qui prennent des couleurs partout. Non comme des chauves-souris. On ne sait pas s'ils sont animaux ou oiseaux. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement le dimanche matin, mais c'est au quotidien. Nous devons briller de la lumière de Christ partout où nous sommes. Mais combien parmi nous sont ténèbres? Le Seigneur a parlé ce matin. Frère, sœur, es-tu touché par ces messages? Veux-tu que nous puissions prier pour toi? Peut-être que tu marches toujours dans la défaite. Toujours dans la défaite. Je ne dis pas que lorsque on passe par la défaite, c'est qu'on est toujours pécheur. Non. Mais quelquefois, cela arrive. Si tu es touché par ces messages, dans un aspect ou un autre, là où tu es, tu peux t'élever. D'abord, lève ta main. Merci. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous voit. Ce n'est pas pour vous juger, mais c'est pour vous préparer à rencontrer le Seigneur. Merci pour les mains qui se lèvent. Voulez-vous vous lever là où vous êtes, s'il vous plaît? Merci, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Gloire au Seigneur.